Bonjour et bienvenue. C'est Diane Pilote au micro en ce lundi matin 18 mars. Et je suis en compagnie de Franceline.
Oui, bonjour.
Bonjour, parce que Roger est allé vers d'autres cieux plus cléments.
Absolument.
Et Jean-Sébastien à la régie. Bonjour Jean-Sébastien.
Bon lundi, groupe.
Merci. Franceline, vous allez nous parler de quoi pendant la
cette émission, pendant mes trois premiers articles, je vais vous parler de quatre personnes qui, pour leur implication dans la société. Alors les deux premières sont les porte-paroles pour la semaine québécoise de la déficience intellectuelle, qui est cette semaine, du 13 au 25 mars. Et ensuite, je vous parlerai de Jeannine Lavallée, et c'est quelqu'un de La Prairie, et puis aussi du docteur Sylvie Vézina, qui est dans le titre de l'article est « Lutteuse pour la vie », et vous verrez comment.
OK. Pour ma part, dans cette première demi-heure, je vous parle de papillons.
Ah, c'est beau.
Papillons, ce ne sont pas ceux que vous pensez.
Ah.
Et un bénévole, on en a ici à Buzévoix, mais il y en a aussi, c'est M. Yves Cyr qui est bénévole dans les MADA, dans les maisons.
Dans les municipalités amis des aînés. Oui.
Voilà. Donc, nous vous revenons après la pause.
Oui, alors mon premier article s'intitule « Acteurs de changement ». Et je vais donc parler à propos de la semaine « La déficience intellectuelle vécue au quotidien ». Alors ces deux personnes, toutes deux porte-parole de la semaine québécoise de la déficience intellectuelle, ce sont les comédiens Gabriel Marion Rivard et Vincent Guillaume Otis qui connaissent bien cette réalité, mais chacun à leur manière. Si Gabriel a le syndrome de Williams, c'est par l'entremise de son frère Jean-Sébastien que Vincent Guillaume a été sensibilisé à cette condition donc de déficience intellectuelle. Accompagné de Jean-Sébastien, Vincent Guillaume Otis a animé cet automne le cabaret singulier pluriel. Il s'agissait d'un spectacle bénéfice pour la déficience intellectuelle. C'était la première fois qu'il partageait une scène. Ça s'est très bien passé. C'est une expérience qui restera gravée dans ma mémoire pour un bout de temps, nous partage-t-il. Ça a toujours été un rêve de monter sur scène avec mon frère, surtout dans le cadre de la semaine de la déficience intellectuelle. On s'est découvert une grande complicité. C'était une belle soirée, pas parce que mon frère et moi étions sur scène, mais parce qu'on célébrait la déficience intellectuelle. D'autre part, le grand public a connu Gabriel Marion Rivard grâce au film « Gabriel », réalisé par Louise Archambault en 2013, dans lequel Vincent Guillaume tenait également un rôle. Elle était très enthousiaste lorsque Gabrielle a appris qu'elle obtenait le premier rôle dans ce film. « C'était vraiment un rêve pour moi parce que je suis une grande cinéphile et je suis très fière », nous raconte-t-elle. Depuis ce temps, les gens m'arrêtent dans la rue et me demandent « Est-ce bien toi, Gabrielle ?» Le monde m'accepte beaucoup. C'est le fun de voir que le film « Gabrielle » a changé la vie de plusieurs personnes qui ont une déficience intellectuelle. Un film qui a également eu un impact sur les parents des personnes déficientes qui l'ont remercié pour son travail. Pour sa part, Vincent Guillaume affirme que son frère l'a grandement aidé à être un meilleur comédien. Être un acteur, c'est avant tout être à l'écoute. C'est un métier d'ouverture. Quand tu joues un personnage, il ne faut pas que tu le juges. Donc, si tu es déjà très ouvert, tu pourras embrasser ton personnage avec tous ses défauts. Mon frère m'a appris ça avec ses différences à lui. Cette sensibilité-là, c'est lui qui me l'a donnée comme cadeau. Bien que des employeurs fassent preuve d'ouverture de nos jours, les personnes qui ont un handicap ou une déficience intellectuelle sont encore victimes de préjugés. Certains employeurs croient que les gens représentent une charge trop lourde dans un monde où la priorité est mise sur l'efficacité et la productivité. Vincent Guillaume pense au contraire qu'ils apportent quelque chose de plus à leur milieu de travail. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle amènent une énergie au travail qui est communicatrice. Ce sont des gens très assidus, ponctuels, des personnes qui vont toujours t'accueillir avec un beau sourire. Ça change beaucoup de choses et ça amène de la lumière et de la vie. Gabriel abonde dans ce sens. On veut apprendre à travailler et être comme les autres. Des fois, il y a des gens qui ne sont pas capables d'accepter la différence. C'est vraiment difficile. On souhaite travailler pour montrer au monde qu'on est capable. La particularité de Gabrielle, c'est qu'elle exerce un métier peu commun et qu'elle a de la chance de vivre son rêve. « Je vis une vie d'artiste. Je veux montrer au monde que je suis capable de travailler fort. J'ai eu une formation en art de la scène grâce aux muses. Et les Muses, j'ai vu que c'était donc un programme professionnel en art de la scène destiné aux personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, une limitation physique ou sensorielle. Ce programme a été créé en partenariat avec le Centre Champagnat de la Commission scolaire de Montréal. Le but est d'intégrer ces personnes professionnellement dans le monde des arts de la scène. Et donc Gabrielle dit « C'est un grand cheminement », explique la comédienne, née dans une famille de musiciens. « C'est pour cela que j'aime la vie d'artiste, comme dans la chanson « J'aurais voulu être un artiste ». Ben voilà, je suis devenue une artiste », ajoute-t-elle avec fierté. Alors l'article se poursuit sur l'intimidation, sur le problème quand on a une différence, et je voudrais vous lire la fin de l'article. Gabrielle Marion Rivard est la preuve qu'on peut vivre ses rêves, même en ayant une déficience intellectuelle. Et plusieurs projets artistiques l'occuperont dans les prochains mois. Vincent Guillaume Otis, qu'on surveille assidûment dans District 31, est doté d'une très grande sensibilité face à la différence. Espérons que cette empathie soit contagieuse pour mettre fin aux préjugés. Voilà, donc c'est un message pour cette semaine de la déficience intellectuelle au Québec.
Dans le bel âge du mois d'avril, c'est le billet de la rédactrice en chef Aline Pinksteren qui m'a interpellée et son billet s'appelle « Juste un papillon ». Elle a 16 ans, mais elle a l'air d'en avoir 12 ou 13 à peine avec ses longues tresses et ses deux têtes de moins que tous les gens autour. En août dernier, Greta Thunberg a décidé de manquer l'école chaque vendredi pour protester devant le Parlement de son pays, la Suède, en silence et avec une simple pancarte. Grève scolaire pour le climat. Ses parents, opposés au départ, ils ont fini par lui donner l'autorisation. Il faut dire que Greta, par ailleurs autiste Asperger, n'en démord pas depuis qu'elle a pris conscience à 8 ans de l'ampleur des dégâts environnementaux. Elle devait agir même en solo. Depuis, elle n'est plus seule du tout. En moins de 6 mois, ces grèves Fridays for Future, les vendredis pour le climat chez nous, sont devenues des manifestations hebdomadaires rassemblant des dizaines de milliers de jeunes de l'Australie à l'Allemagne, en passant par la Belgique ou l'Angleterre. Listée parmi les 25 adolescents les plus influents du monde par Time Magazine en décembre, Greta a parlé devant un parterre de ministres à la COP24 en Pologne. Citation, « Vous dites que vous aimez vos enfants plus que tout, mais vous leur volez leur avenir juste devant leurs yeux. » Fin de citation. Son discours choc a été vu par des millions de personnes sur YouTube. À Davos, elle n'a pas hésité à fustiger les milliardaires présents qui se permettaient de donner des leçons sur la pollution alors qu'ils avaient débarqué en jet privé. Pas de ça pour Greta qui ne se déplace qu'en train, même si ça lui prend des jours. Ne ferait-elle pas mieux d'être à l'école et tous ces gamins qui la suivent aux quatre coins du monde aussi? Prenez notre place dans les rues, alors, pour que nous puissions retourner en cours, rétorque l'adolescente. Plusieurs centaines de scientifiques l'ont entendu, signant un appel pour une grève générale, adulte inclus, le 15 mars. C'était vendredi dernier.
Oui, absolument.
Parce qu'il y a un petit souci. Toujours mineurs dans leur grande majorité, ces jeunes ne votent pas et n'ont donc pas vraiment de moyens de pression sur leurs dirigeants. Leur atout? L'effet papillon. Partie de presque rien, Greta en est arrivée à s'exprimer aussi devant la Commission européenne fin février. Dans la foulée, son président, Jean-Claude Juncker, a annoncé qu'un quart de son énorme budget serait désormais consacré à la lutte contre les dérèglements climatiques. Un seul de nos actes peut influencer nos proches, nos voisins, puis de fil en aiguille notre quartier, notre municipalité, voire notre pays entier. Quand mon fils de bientôt 17 ans a expliqué en fin de semaine à sa grand-mère qu'il comptait participer au mouvement qui vient de se développer au Québec, la réponse a fusé. Faisant quelque chose d'utile, alors au moins, parce que moi j'ai l'impression que vous faites grève surtout pour manquer l'école, donc ça ne donne pas envie de vous soutenir. C'est la grand-mère. Pas faux, a admis mon grand. Ils ont cherché ensemble comment faire une différence en partant de ce qui polluait le plus. Ils se sont arrêtés sur la viande. Produire un kilo de bœuf génère 35 kilos de CO2. Et s'ils tentaient d'instaurer un vendredi végé à son école? Dans plusieurs pays, des grands-parents pour le climat forment des associations, estimant avoir le droit, le temps et le devoir de protéger leurs petits-enfants, entre autres en les aiguillant. Dans la chaîne lancée par la jeune génération, les adultes sont un précieux maillon, d'autant qu'ils peuvent faire pression. Face à la demande croissante du public pour des aliments frais et plus soucieux de l'environnement, même le géant des produits transformés Heinz Kraft vient d'annoncer que ses emballages seront bientôt recyclables. Un exemple parmi tellement d'autres. Si jamais le vendredi végé commence à se propager, vous saurez d'où il est né. Et pour le reste, que l'on se sente ou non concerné, le phénomène sera intéressant à observer. Jeune, on croit toujours qu'on peut tout changer, tout plein qu'on ait du désir de porter haut ses idées. Cette fois, est-ce parti pour durer? Et ces vendredis sans viande, ça me fait penser, quand j'étais jeune, on avait... On faisait le vendredi chez nous, mais c'était plus religieux, on ne mangeait pas de viande le vendredi.
Oui, c'est ça, oui.
Ce n'était que
mais
du poisson.
Oui, c'est ça. Oui, mais effectivement, c'est, ça. C'est un rapport.
Mais ce n'était pas un rapport
religion.
À l'environnement, on avait vraiment les vendredis maigres qu'on avait.
Oui.
Et voilà, c'était le billet de Aline Pixteren dans l'édition d'avril du Bel Âge.
Sans attendre la quille, je sors de ma coquille, désertant la caserne qui me gouverne pour flâner dans la rue avec d'autres recrues dans nos manteaux d'hiver. Papillon vert, c'est au cœur de la ville, la vie civile que nos soldes sont bus, avec en vue des bourgeois enchantés de se désargenter, d'aller faire les boutiques. Papillon chic, des papillons et papillons. Les papillons, 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 les papillons. Le diable nous emporte avec les feuilles mortes au grand bal des fantômes. Papillons jaunes, ou dans quelques manèges, sous les flocons de neige, angéliques et mouillants. Papillons blancs, la cigarette au bec, je poursuis ma cueillette en regardant descendre un papillon de cendre dans l'anonymat d'une salle de cinéma parmi d'autres poussières en avis de lumière. Les papillons, 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 les papillons. Je n'ai pas satué le temps sans connaître la gloire d'être un seul soir un as de la voltige, matador de 20 piges, un coquelicot qui bouge. Papillon rouge, moi c'est grise d'alcool que je prends mon envol dans la rue vers minuit. Papillon gris, la lune le libère et sous les réverbères, ce sont les noctambules qui déambulent. Les papillons, les papillons, les papillons. Les papillons, 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 les papillons. Parfois parmi le nombre, on croise une ombre qui fait parler ses yeux. Papillon bleu, mais on n'écoute rien, on pense à autre chose quand ses lèvres nous causent. Papillon rose, et parfois on la suit sous son grand parapluie, mais son prénom nous fuit. Papillon nuit, et quand le lendemain, il reste sur la main l'ombre de son parfum. Tout un jardin, elle est déjà loin, elle n'est plus qu'un point, et c'est le désespoir. Papillon noir, car sur le guéridon, griffonne et au crayon, il reste un papillon. Adieu Léon. Les papillons, les papillons, les papillons. Les papillons, les papillons, les papillons. Les papillons, les papillons. Les papillons, les papillons, les papillons.
La douce musique de Thomas Fersen et la pièce Les papillons.
Jean-Sébastien.
Bien, donc je vais continuer avec mon deuxième article qui parle de Jeanine Lavallée. Donc cet article, je l'ai pris dans le journal Le Bel Âge de mars 2019 Et chaque mois dans cette revue, il y a un article à propos du MADA. Le MADA, c'est les municipalités amies des aînés. Et il y a à chaque fois un projet qui est réalisé et donc qui est retranscrit. Donc c'est Anne-Christine Schneider qui écrit ceci. Et ça s'intitule « Jeannine Lavallée, la petite maison dans la prairie ». Récipiendaire de la médaille de l'Assemblée nationale pour son grand engagement bénévole en 2017, Jeannine Lavallée est impliquée dans la politique de la vie familiale de sa municipalité depuis plusieurs années. Membre du comité MADA, donc Municipalité Amie des Aînés, elle est aussi et surtout l'une des cofondatrices de la Maison des Aînés, qui s'intitule MDA, donc pour à la Prairie, donc sur la rive sud de Montréal. Et donc, cette maison a ouvert ses portes en 2005 et elle est, Jeannine Lavallée, la présidente depuis 2010. Cette retraitée de l'enseignement tenait absolument à s'impliquer dans sa communauté et auprès des aînés. Pendant 30 ans, elle avait enseigné dans sa région à des enfants de 9-10 ans et était en contact avec leurs parents, le tout impliquant forcément beaucoup de communication. Quand Jeannine Lavallée a pris sa retraite, tout un monde s'est donc écroulé, raconte-t-elle. Les missions de la MDA, donc de la Maison des Aînés, la rejoignaient particulièrement. Briser l'isolement, procurer un lieu d'appartenance, d'échange et de ressourcement, favoriser l'autonomie physique, intellectuelle et sociale et promouvoir la place des aînés dans la communauté. Très à l'écoute de ces derniers et de leurs besoins, la MDA offre de multiples activités pour les 50 ans et plus. Des sorties, des cours de langue et de tablettes, des activités physiques, sociales, créatives. L'atelier tricot, crochet et broderie réunit par exemple chaque semaine les participantes dans un esprit de bonne humeur et d'échange. Les œuvres conçues sont ensuite vendues à leur boutique et lors du marché de Noël de la ville. Des ateliers théâtre donnent lieu à un spectacle présenté en mars au théâtre du Vieux La Prairie. Et il est même possible d'écrire ses mémoires afin de laisser une trace à ses descendants. Mais pour les hommes, qui représentent environ 16% des membres et qui trouvaient parfois moins leur compte dans les activités proposées, un atelier « Affaires de gars » existe depuis peu, durant lequel ils discutent de différents thèmes qu'eux-mêmes choisissent. Jeannine Lavallée évoque aussi, avec une grande fierté, le service de commission mis sur pied par la MDA. « Nous allons chercher les gens sans voiture pour faire leur épicerie, se rendre dans les institutions financières et dans les magasins grande surface. » Pour les 80 ans et plus, un service de coiffure à domicile est également offert. Ce qui démarque aussi cette maison, pas comme les autres, c'est d'avoir engagé une employée pour organiser des activités 2 jours par semaine dans 2 résidences de personnes âgées qui ne peuvent venir à la MDA. Jeannine Lavallée peut compter sur une belle complicité avec les jeunes du service des loisirs, toujours prêts à rendre service et à préparer les salles pour leurs activités. Elle aime tant les gens et communiquer que les échanges avec les membres de la maison qui lui racontent des bribes de vie ou lui donnent des idées d'activité la font vivre, confie-t-elle. Son bénévolat lui procure d'ailleurs une si grande satisfaction que la dynamique présidente s'est sentie mal à l'aise de recevoir la médaille de l'Assemblée nationale. Dans sa grande humilité, elle ne pensait pas la mériter. On a près de 500 membres et j'entends souvent des gens dire « j'aime assez ça venir à la maison des aînés ». Pour moi, c'était déjà gratifiant. Finalement, Jeannine Lavallée a décidé d'accepter cette décoration au nom notamment de tous les bénévoles qu'ils travaillent à ses côtés, consciente de leur crucial apport. Sans eux, la Maison des Aînés ne serait pas ce qu'elle est. Voilà donc ce texte écrit par Anne-Christine Schneider en collaboration avec le Carrefour d'Action Municipale et Famille de la Prairie, qui donc fait part de qui rend hommage à Jeannine Lavallée et à son projet à la Prairie.
Merci Princeline.
Merci.
Eh bien, moi aussi, je vous parle des municipalités amies des aînés.
Oui.
Il y a des bénévoles de cœur dans ces organisations, comme à la médiathèque Vusez-Voix. On s'entend? Ces organismes fonctionnent vraiment à partir de l'âme des bénévoles. Alors, je vous parle de Yves Cyr, un vecteur de connaissances. Vous allez voir qu'il est très occupé à se retraiter. Très investi socialement depuis toujours et doté d'une grande expertise en milieu municipal, Yves Cyr s'apprête à profiter de sa vie de personne âgée et de sa famille après avoir été un peu plus de 30 ans formateur au Carrefour Action municipale et famille. À ce titre, il s'est impliqué dans la création et la mise en œuvre d'une politique familiale municipale et dans la démarche « Municipalité amie des aînés », accompagnant au fil des ans plus de 100 municipalités de plus de 8 MRC différentes. Officiellement, l'homme de 73 ans était cependant à la retraite depuis le 11 septembre 2001, ça ne s'invente pas. En même temps que les tours tombaient, moi, je prenais ma retraite. Heureusement, sa vie ne s'est pas écroulée pour autant. Alors âgé de 55 ans, ah lui, il a connu la liberté 55, il ne se voyait pas ne rien faire. C'est à partir de ce moment qu'il s'est engagé davantage encore auprès du Carrefour d'Action municipale et famille. Je sentais le goût de m'impliquer encore, je me suis toujours impliquée. Un peu comme les chats, Yves Cyr semble avoir eu plusieurs vies, s'investissant à fond dans chacune d'elles. Infirmier de formation, il a été directeur des soins infirmiers, puis directeur général pendant 35 ans à l'hôpital de Mont-Laurier. Il a aussi été commissaire d'école pendant 8 ans, président du CA du Cégep de Saint-Jérôme pendant 1 an, conseiller municipal à la ville de Mont-Laurier pendant 17 ans et même maire de la ville durant 2 ans. Comment en arrive-t-on à passer d'infirmier à politicien et à temps s'engager? Yves Cyr a simplement toujours eu le goût de la politique et de s'investir. Je pense que ma formation première me permet d'avoir une certaine sensibilité au niveau des besoins physiques et psychologiques des gens et d'avoir une préoccupation constante du bien-être de nos citoyens. Yves Cyr, qui fait partie du Carrefour d'Action municipale et famille, les CAMF, depuis ses tout débuts, en 1989, se souvient avec plaisir d'une personne venue animer la pause lors du premier colloque de l'organisme il y a 30 ans. Il s'agissait de Marguerite Blais, l'actuelle ministre responsable des aînés et des proches aidants. C'est amusant de voir le cheminement de part et d'autre. En ce qui le concerne, sa maîtrise en développement régional de l'Université de Chicoutimi, qui l'a rendu particulièrement sensible à l'isolement et à l'exode en région, et sa vaste expérience de vie l'ont certainement aidé dans son rôle de formateur. Rôle qu'il adore et qu'il lâchera sans doute à regret. Ce qu'il a toujours particulièrement aimé dans la création d'environnements favorables au vieillissement actif et la lutte contre l'isolement, c'est le rapport intergénérationnel et la transmission de connaissances. Pas seulement la sienne aux autres, mais surtout celle des personnes âgées aux plus jeunes. Dans les municipalités, on met souvent en place une relation aîné-adolescent. Les jeunes transmettent leurs connaissances en informatique aux aînés et ces derniers leur transmettent celles du passé, leur expérience de vie, qui vaut d'être partagée. D'ailleurs, cet aspect de transmission des savoirs aux jeunes comme aux plus âgés a été, nous dit-il, mon fil conducteur d'une démarche de 30 ans de vie dans ce beau monde de la municipalité, des familles et des aînés. Résume Yves Cyr. Il en a retiré énormément. J'ai transmis des choses, mais je pense en avoir reçu davantage cette sensibilité au devenir de nos communautés. Voilà, c'était un bénévole d'exception, Yves Cyr, qui travaille au MADA.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends? Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de raide, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide, et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère, cela n'importe pas. Celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin, traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin, et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends. Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend.
La poésie de Jacques Brel, extrait de son album « Quand on n'a que l'amour » en 1963, « Les vieux ».
Et Franceline va nous terminer cette partie de l'émission.
Oui, avec une petite brève intitulée « Plaisir partagé ». La transmission du savoir culinaire permet aux jeunes d'être mieux outillés quand ils partent vivre de leurs propres ailes. Aimer faire à manger, cela vient souvent d'un partage précoce du plaisir de découvrir des aliments et de les préparer en compagnie de ses parents et grands-parents. C'est justement ce que proposent les nutritionnistes Hélène Lerando et Catherine Desforges dans « Je cuisine avec toi ». Ce livre invite les enfants à s'initier à la cuisine de façon ludique. La recette est manquée, aucun souci, cela fera une anecdote à raconter.
Franceline, à quoi allez-vous vous attaquer pendant deuxième partie de l'émission?
Je vais reprendre le journal L'Itinéraire dont j'avais tiré l'article, mon premier article, donc l'itinéraire du 15 mars 2019, en vous lisant ce qu'écrit Jo Redwish à propos du docteur Sylvie Vézina. Et ça s'intitule « Lutteuse pour la vie ». Famille, collègues, amis, patients ont tous été marqués par cette personne admirable qu'était la docteure Vézina. Décédée en effet d'un grave cancer en novembre 2018 à l'âge de 56 ans, cette jeune femme d'exception qui a été impliquée jusqu'à la toute fin de sa vie dans le domaine social et de la santé laisse une communauté entière dans le deuil. Tous témoignent d'une femme engagée tant au point de vue professionnel que personnel. En effet, elle était diplômée en médecine en 1987. La hausse fulgurante du VIH dans les années 1990 l'a interpellée et l'a poussée à venir en aide aux patients atteints de cette terrible maladie, alors largement jugée par la société. Elle est devenue une figure importante, mais aussi une pionnière dans la lutte contre le VIH. La docteure Vézina a priorisé les patients en situation de vulnérabilité, mais plus spécifiquement les personnes marginalisées, dont les membres de la communauté LGBTQ, qu'elle a soignées par milliers tout au long de sa carrière. Elle a travaillé d'abord à la clinique médicale Mont-Carmel de 1987 à 1994. Son intérêt pour la cause l'a mené dès 1990 vers la présidence du comité SIDA-AIDS Montréal. Le CASAM, là, le comité SIDA-AIDS Montréal, était à l'époque l'un des principaux organismes communautaires de lutte contre le sida au Québec. La docteur Vézina a également été à l'origine de la Maison du Parc, un lieu d'hébergement fondé en 1991 pour personnes atteintes du sida. C'est pourquoi on parle d'elle comme une pionnière dans le domaine. Docteur Vézina traitait en priorité ses patients victimes de préjugés, dont ceux qui utilisaient des drogues par injection. Malgré sa charge énorme de travail, elle se montrait particulièrement humaine. Son accueil chaleureux, son écoute et son attention à mon endroit m'ont fait comprendre son humanisme, explique un de ses patients, Richard Hainaut. Richard Hainaut. Le frère d'un autre de ses patients se rappelle quant à lui de la docteur Vézina comme d'une personne dévouée. Elle a donné une fin de vie merveilleuse à mon frère, dit-il. Les gens qui l'ont connue la décrivent comme une personne dynamique et engagée, au point où elle ne refusait jamais de voir un patient, même avec des problématiques multiples telles que l'itinérance, la toxicomanie, la maladie mentale. De 1992 à 2010, elle a pratiqué au CHUM en médecine des toxicomanies. Elle a également travaillé dans la clinique médicale L'Actuel de 1994 à 2016, dont plusieurs années comme directrice clinique, puis à la clinique médicale urbaine du quartier latin de 2016 à 2018. Et je vous rappelle qu'elle est décédée en 2018. La docteur Vézina a participé à de nombreux projets de recherche, dont certains feront l'objet de présentations internationales. L'un de ces projets a permis de développer un modèle de thérapie qui encourage un suivi serré du patient à la fois par un médecin, un pharmacien, un travailleur social. Ils doivent travailler de concert avec le patient, qui est parfois un utilisateur de drogue par injection, à l'instar de Jean-Claude qui se souvient très bien de la docteur Sylvie Vézina. Jean-Claude parle ainsi de ce médecin exceptionnel. Il dit « Elle m'a suivi à partir de 1999. J'avais l'hépatite C, le VIH et j'étais aussi suivi par un travailleur social. Dès que je l'ai rencontré, ça a cliqué. Je l'ai adopté comme docteur pour son écoute, pour sa gentillesse et parce qu'elle ne me jugeait pas. » Il ajoute que ce qu'il aimait chez sa docteur, c'était qu'elle se concentrait sur les solutions au lieu du problème. Jean-Claude ajoute « Quand elle a pris congé pour son cancer, elle s'ennuyait de ses patients. » Lors de sa rémission, elle est revenue travailler. Au début, elle portait une perruque, puis elle l'a mise de côté. Elle avait beaucoup maigri à la suite de sa chimiothérapie, mais elle a gardé son sourire et elle me donnait toujours un câlin jusqu'à ma dernière rencontre avec elle. J'avais les larmes aux yeux la dernière fois que je l'ai vue. C'était une femme extraordinaire, nous affirme Jean-Claude. Elle a travaillé jusqu'à la fin ou presque. Elle a tenu à voir chacun de ses patients avant de lâcher prise pour leur dire au revoir. Lors de mon dernier rendez-vous, ça faisait 11 ans et demi que je ne prenais plus de drogue. Il a aujourd'hui une charge virale indétectable, cela indique que le VIH est moins actif dans sa réplication. Il n'oubliera jamais ce que son médecin a fait pour lui. En 2006, la docteur Vézina a été récipiendaire d'un prix de la Fondation FARA, déjà fusionné avec la Fondation québécoise du sida. L'Ordre des pharmaciens du Québec lui a également remis le prix Hippocrate en 2014 afin de saluer la mise en place, en collaboration avec la pharmacienne Danielle Gourde, d'un projet clinique impliquant la coopération entre la pharmacie et la médecine. Donc voilà ce qu'écrit Jo Redwich à propos du docteur Sylvie Vézina, une personne d'exception effectivement.
J'aurai pour cette deuxième partie un article que je diviserai en deux volets. Je parle d'argent.
Wow!
C'est une question assez sensible. Vous savez qu'on met l'éthique un peu partout, dans nos assiettes, l'environnement et tout. Ben, il y a aussi la question des placements éthiques. On se pose la question et c'est un texte de Dominique Lamy qui est publié dans le Bel Âge du mois d'avril. Mode d'emploi pour les placements éthiques. Épargner de l'argent tout en respectant ses valeurs, l'investissement responsable permet ce doublé gagnant avec un succès sans cesse plus grand. Pourquoi cette popularité? Marée noire, scandale de corruption, effondrement d'usines textiles, travail des enfants, rien ne nous oblige à investir dans des sociétés qui y sont mêlées. On peut décider de plutôt faire travailler ses deniers au service de ses convictions personnelles. Même dans le domaine des finances personnelles, les bottines peuvent suivre les babines. Il est possible de conjuguer la croissance de son portefeuille et sa conscience morale. L'investissement responsable, qu'on appelle IR souvent, poursuit d'ailleurs son expansion rapide au Canada. Selon le rapport de tendance de l'investissement responsable canadien de 2018, cette catégorie d'actifs représente actuellement 50,6 % de l'industrie canadienne de l'investissement. C'est beaucoup. Une hausse substantielle comparativement à la proportion de 37,8 % comptabilisée au 31 décembre 2015. Il y aurait actuellement plus de 2 130 milliards de dollars en actifs sous gestion dite « responsable » au pays. Cette popularité n'est pas difficile à expliquer. D'après un récent sondage de l'Association pour l'investissement responsable, commandité par la société de gestion AGF, la vaste majorité des investisseurs canadiens sont préoccupés par le phénomène des changements climatiques. Plus de 86 % des répondants s'attendent à ce que les conseillers financiers et les institutions financières les informent des risques liés aux facteurs ESG. Je vais vous expliquer ce que c'est sur leurs placements. Les facteurs ESG, il s'agit des facteurs environnementaux pour le E, donc émissions de gaz à effet de serre, fracturation hydraulique, etc. Sociaux, donc le S de ESG, qui sont les droits de la personne, le travail des enfants, l'équité salariale, et liés à la gouvernance des entreprises, le G de notre ESG, la gouvernance qui est les rémunérations des dirigeants et le droit des actionnaires, d'où l'acronyme ESG. Un constat sans équivoque. Cette étude démontre que les investisseurs canadiens prennent au sérieux les changements climatiques et les enjeux de société et qu'ils veulent que leurs fournisseurs de services financiers en fassent tout autant. Ils comprennent que ces changements présentent des risques financiers et souhaitent investir dans des solutions responsables, affirme ainsi Dustin Lentz, qui est chef de la direction de l'Association pour l'investissement responsable, en décembre 2018. Un placement responsable n'est donc pas effectué simplement sur la base des critères financiers habituels. On ne s'arrête pas pour faire son choix à la seule santé financière de la société, convoitée ou aux perspectives fondamentales d'une industrie par rapport à une autre. Annie-Pierre Laplante, conseillère en placement, explique comment emprunter cette voie. Il y a des stratégies à adopter sur les fonds de placement et les fonds communs, donc je vous en parlerai en deuxième partie de ce texte, qui est publié dans le Bel Age et qui est signé Dominique Lamy, placement éthique, mode d'emploi.
Changer mes pneus, ça coûte de l'argent. Yeah. Je vais chez mon barbier pour faire couper mes cheveux, ça coûte de l'argent. Oui, l'argent fait le bonheur. Je vais au magasin pour m'acheter des cossins, toujours l'argent. Yeah. Je veux manger des bananes, manger des dîners en canne, mais j'ai pas d'argent. C'est ça qui est le malheur. L'argent fait le bonheur. L'argent. Si tu veux t'amuser, ça prend l'argent. Si tu veux t'éclater, que ta nana prenne son pied, ça prend l'argent. Oui, beaucoup, beaucoup d'argent. Sing it. Oh yeah. Hey yeah yeah. Oh yeah. Yeah yeah yeah. Sois toujours des comptes, encore l'argent. Et ça monte, pour toi c'est la fin du monde. Fuck l'argent, mais l'argent fait le bonheur. Quand tu en auras plus, t'auras manqué l'autobus. Usé comme tous tes gugus, t'auras perdu tout ton temps. Pour l'argent, il fait le bonheur. L'argent, l'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur.
qu'on peut, mais l'on fait pas ce qu'on veut sans l'argent. On peut dire ce qu'on peut, mais l'on fait pas ce qu'on veut sans l'argent.
Les respectables ou les respectables, selon la façon dont vous choisissez de les appeler, nous chantaient l'argent fait le bonheur.
Voilà. Voilà, Francine,
on poursuit. Voilà, alors je poursuis avec le texte écrit par Yannick Marcil dans le journal L'Itinéraire du 15 mars 2019. Je vous dis que ce texte a été donc écrit avant la tuerie dans les mosquées de Nouvelle-Zélande, puisque cette tuerie qui avait eu lieu vendredi, parce que donc c'est paru déjà dans le journal de vendredi. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup de résonance. Voilà.
On vous écoute.
Le texte est intitulé « Trouver refuge ». Au mois de février dernier, une tragédie sans nom a frappé une famille d'Halifax. Un violent incendie a ravagé leur maison et les 7 enfants du couple âgés de 4 mois à 14 ans sont décédés. « Au moment où j'écris ces lignes, dit-il, le père est entre la vie et la mort à l'hôpital, la mère est également hospitalisée en état de choc. Cette belle famille a dû quitter sa communauté pour fuir la guerre. » Passer du temps dans des camps de réfugiés et dans l'incertitude pour enfin arriver dans la région d'Halifax qui les a accueillis à bras ouverts. Et voilà que ces deux parents perdent tous leurs enfants, on peut difficilement imaginer pire tragédie. Hélas, la réalité dépasse ce que nous pouvons imaginer d'horreur. Car les commentaires publiés sous la nouvelle de cette histoire sur Internet ont été pour un bon nombre d'entre eux odieux. Le mot est faible. Je ne les citerai pas tellement ils sont violents. Mais en substance, certains de nos compatriotes se réjouissaient de la mort de ces pauvres enfants, croyant que nous étions débarrassés d'au moins de ce nombre de fauteurs de troubles en puissance. Lorsque j'ai lu ces commentaires haineux, d'une infinie violence, je suis restée sans mots. J'ai erré dans la maison toute la journée. Comment peut-on nourrir autant de haine envers un peuple, ici des Syriens, amalgamé avec les Arabes, et surtout une religion, ici supposée musulmane ? Cela me dépasse complètement. Il aurait pu être possible que cette famille soit chrétienne, une confession très présente en Syrie. Il a par soi qu'elle est musulmane. Mais qu'est-ce que ça change? Comment peut-on en venir à détester à ce point une partie de nos semblables? Qu'une famille soit décimée nous réjouisse. Bien sûr, il s'agit là d'une quinzaine de commentaires sur Facebook ou sous la publication de TVA. Il ne s'agit que de quelques imbéciles, non. 10 000, 15, 7 ou un imbécile, c'est trop. C'est le syndrome d'un mal profond, celui du rejet à tout prix, contre toute réflexion rationnelle, contre tout examen des faits de la réalité que ces gens ont vécue. Ces quelques personnes qui ont déversé leur fiel, prétextant que c'était une bonne chose, qu'on élimine la menace que représentent ces réfugiés et immigrants de transformer notre culture, ont-ils déjà été en contact avec ces nouveaux arrivants ? Je n'en sais trop rien, évidemment, mais j'en doute. Outre l'odieux d'utiliser la mort de ses enfants pour faire la promotion de l'idée selon laquelle l'immigration transformerait notre société en profondeur, il y a là une incompréhension totale des motivations profondes derrière l'immigration. Ces personnes intolérantes, heureusement très minoritaires, mais néanmoins trop présentes sur les médias sociaux, croient que les familles immigrantes imposeront leur mode de vie et leurs croyances en nos terres. Or, l'analyse documentée montre que c'est l'exact inverse. Supposons que vous quittiez un régime autoritaire ou un pays en guerre. Que recherchez-vous ? Un environnement politique, social et communautaire sécuritaire pour votre famille, au sein duquel vous pourrez vous épanouir. Les recherches en sciences sociales l'ont démontré. Si l'on fuit par nécessité, voire par urgence, son pays et sa communauté pour s'établir ailleurs, on cherchera à tout prix à s'adapter à sa communauté d'accueil. On désirera plus que tout respecter les institutions qui encadrent notre nouvelle vie commune. C'est ce qu'a certainement voulu cette famille en s'établissant à Halifax. Comment peut-on nier cette volonté et faire preuve de violence verbale à leur égard ? Je ne me l'explique pas. Cette belle famille ne cherchait rien d'autre qu'un refuge, ce qu'elle avait trouvé. Le sort tragique a fait qu'on lui a enlevé et que des imbéciles s'en réjouissent. Cela est profondément déprimant.
Très, très beau texte.
Voilà, c'est Yannick Marcil donc, qui écrit cela dans le journal L'Itinéraire du 15 mars 2019.
Et il a tout à fait raison.
Absolument.
Oui.
revenir aux placements éthiques après un tel texte, c'est un peu futile, je trouve.
Ouais.
Il est difficile. On poursuit avec Dominique Lamy sur les modes d'emploi. Donc, elle nous parlait de stratégies à adopter. Il faut exclure ce qui ne correspond pas à vos valeurs. L'un des moyens les plus simples de plonger dans l'univers de l'investissement responsable est d'adopter une approche de sélection négative visant à exclure les industries ou les entreprises dont le rendement ESG est faible. Vous pourriez ainsi décider d'éviter certains secteurs dans vos placements, les armes, le tabac, le nucléaire, les jeux d'argent ou alcool, par exemple. Cela dit, l'investisseur qui renoncerait au lourd secteur de l'énergie de la Bourse canadienne pour ne pas investir dans des titres pétroliers s'éloignerait par contre de la stratégie indicielle qu'il convoite peut-être ou de celle exigée par son profil d'investisseur. Des sociétés minières, gazières et pétrolières font partie de plusieurs fonds d'investissement responsables, ce qui est quand même surprenant. Bien souvent, les gestionnaires tentent de dénicher les perles du secteur, celles dont la performance est en progression, la performance ESG, donc les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ou surpasse celle de ses concurrents. On peut aussi favoriser ce qui vous convient. À l'inverse, une approche de sélection positive serait d'investir dans des sociétés à la cote de responsabilité sociale élevée et opérant dans des secteurs en adéquation avec vos valeurs, comme celui des énergies renouvelables. Vous pourriez aussi déterminer que seules les entreprises bénéficiant d'une mixité homme-femme au conseil d'administration méritent une place dans votre portefeuille. Pas facile toutefois d'identifier aisément les sociétés, les titres ou les fonds qui répondent aux critères souhaités. La ligne est parfois mince entre un fonds traditionnel et un fonds éthique, le premier s'adonnant aussi à l'occasion à la sélection négative. Mieux vaut lire les prospectus attentivement. Exercer votre droit de vote, eh oui. À la bourse, détenir une action implique aussi un droit de vote. C'est sur ce terrain de l'engagement des actionnaires que se déroulent bien souvent les avancées de l'investissement responsable. L'activisme financier est la pierre angulaire de cette philosophie de placement. Certains gestionnaires de fonds tentent ainsi d'influencer le comportement des entreprises dans lesquelles ils investissent pour les inciter à adopter de meilleures pratiques ESG. Ces détenteurs de parts, vu le poids de leur actionnariat, engagent le dialogue avec les dirigeants ou déposent des résolutions d'actionnaires pour faire changer les choses. Un bémol cependant, ces initiatives activistes entraînent généralement un ratio des frais de gestion plus élevé pour l'investisseur. Donc, le rendement attendu. L'objectif demeure évidemment de ne pas vous appauvrir au nom de vos convictions. Le rendement demeurant toujours l'objectif ultime du placement. Je pense que c'est assez clair. Mais l'investisseur n'a heureusement pas nécessairement besoin de sacrifier du rendement pour investir de façon socialement responsable. Le rendement net de frais d'un portefeuille bien diversifié, comprenant des produits à l'investissement responsable, devrait correspondre à long terme à l'indice ou à celui de produits comparables, évalue une conseillère en placement. Ainsi, bien qu'un fonds éthique impose un RFG plus élevé qu'un fonds comparable traditionnel, c'est le rendement net de frais, ce qui reste dans vos poches, qui doit être considéré. L'utilisation des facteurs ESG dans la recherche d'occasions de placement pourrait aussi améliorer le profil risque-rendement des portefeuilles dans la mesure où elle réduit les risques de pertes importantes liés à certains événements. Les entreprises au profil de l'investissement responsable bien établi font généralement preuve de gestion prévoyante, portent des responsabilités juridiques moins lourdes et protègent la réputation de leur marque. Elles pourraient donc être davantage à l'abri d'une poursuite judiciaire coûteuse, par exemple. Les mêmes règles habituelles s'appliquent cependant pour la constitution de votre portefeuille. Ce dernier doit être bâti dans l'objectif de respecter votre profil d'investisseur en adéquation avec votre horizon de placement et en fonction d'une répartition d'actifs optimale. Voilà, c'était un texte financier, les placements éthiques mode d'emploi. C'était publié dans Le Bel Âge du mois d'avril et signé Dominique Lamy.
C'était une demande quand même assez claire dans les toutes premières années de la formation Les Beatles, Money, de leur album de 1963, With the Beatles, Give Me Money, That's What I Want, et je crois qu'on les a écoutés. Je ne pense pas que leur compte en banque est vide à ces messieurs.
Pas vraiment, non. Alors, Franceline,
oui, une brève
dernière.
Oui, l'Alzheimer révélé par la rétine. Des scanners oculaires pour détecter précocement la maladie d'Alzheimer, c'est ce que laisse espérer une récente étude menée par une équipe de l'Université Duke en Caroline du Nord. Une nouvelle technique non invasive, l'angio-OCT, permet en effet de visualiser en 3D les réseaux vasculaires de la rétine, et ce, sans injection de produits de contraste. Les chercheurs estiment que les plaques amyloïdes qu'on trouve dans le cerveau des gens atteints d'Alzheimer apparaissent d'abord dans la rétine avant de se répandre dans le cerveau. Toute une avancée donc pour traiter les malades dès l'apparition des premiers signes.
De l'art souterrain à Montréal, 6 km pour être plus précise, c'est jusqu'au 24 mars. Montréal accueille le 11e festival art souterrain axé sur le thème « Le vrai du faux ». Une 60aine d'artistes d'ici et d'ailleurs y exposent leurs œuvres, accessibles en tout temps et gratuitement, sur un parcours de 6 km sous terre du métro Peel à Place des Arts, c'est la ligne verte, et de la station Lucien Lallier à Place d'Armes, la ligne orange. Même pas besoin de sortir dehors pour s'en mettre plein la vue.
Absolument.
Bravo! On félicite chaleureusement le club de tricot des résidences Cogir, qui a produit des milliers d'articles en laine pour les plus démunis du Québec. Depuis l'automne dernier, les résidents ont en effet réalisé quantité de bas, de foulards, de tuques, de mitaines remis à la Société Saint-Vincent-de-Paul pour réchauffer des familles défavorisées. En plus d'exercer leur dextérité, leur concentration et leur créativité, les tricoteurs et tricoteuses ont pu socialiser et se sentir utiles à la société. C'est une belle initiative.
Des bottes de caoutchouc, c'est tellement utile à Montréal, testé et approuvé. Et elles sont tellement jolies, couvertes de fleurs de toutes sortes de couleurs. Déjà adeptes des bottes d'hiver Bugs, ultra chaudes antidérapantes, nous avons aussi essayé leur version printanière, qui reprennent leur meilleure technologie en matière d'étanchéité, de confort et de gestion des odeurs, évacuation de la transpiration et de l'humidité. Parfaite pour la transition vers l'été et pour jardiner aussi, pas seulement dans la gadoue de la ville de Montréal. On aime beaucoup ces deux bottes de pluie hautes en caoutchouc ultra doux, mais d'autres options plus courtes unies existent. Ce sont les modèles Mandala et Printemps Rétro et on peut les trouver à Bogs Footwear, bogsfootwear.ca ou 1-800-363-5762. Voilà ce qui termine l'émission des voies de service de ce lundi 18. Franceline, merci d'avoir pris le relais de Roger qui est dans le sud
et qui se fait
chauffer la couenne.
Ça me fait plaisir.
Oui, voilà. Et Jean-Sébastien à la régie, toujours impeccable. Merci beaucoup. Et je souhaite une bonne fin de journée à tout le monde.